antidote. Une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Zarathoustra l'a affirmé. Les choses les plus importantes entrent dans le monde sur des pattes de colombe. L'image est élégante. Mais Zarathoustra a vécu il y a très longtemps, dans une contrée non industrialisée. Au sein de notre monde techniquement avancé, de telles sentences ont-elles encore un sens ? Les choses importantes n'apparaissent-elles pas autrement que jadis ? Sur des roulettes de caoutchouc, par exemple. Le fait n'aurait rien d'étonnant. De la naissance à la mort, nous passons tant de temps sur des roulettes. Nous voyons le jour à l'hôpital dans un lit muni de petites roues grises. La plupart des décès surviennent dans les mêmes conditions. Dans l'intervalle, nous nous déplaçons à bord de voitures équipées de pneus de caoutchouc et nous mangeons ce que, au supermarché, nous disposons dans des caddies à roulettes. À quoi s'ajoute l'usage de la bicyclette, du skateboard, des rollers. Et, avant cela, sur les trottoirs des villes, nos trajets en poussettes. Les poussettes, justement, n'ont-elles pas donné lieu dans un passé récent à un événement peu remarqué et pourtant étrange ? Jusqu'à la fin des années 60-70, les enfants avaient toujours fait face dans leur poussette à la personne qui les poussait. L'origine de cette disposition est facile à comprendre. Avant l'invention de la poussette, la seule ressource était de porter l'enfant. Contact étroit que la voiture d'enfant venait rompre. Qu'au moins, dans cet éloignement, le lien du regard puisse subsister. Puis, subitement, un retournement massif s'est opéré. Dans les poussettes, les enfants ont été orientés vers l'avant. Pourquoi ce brusque changement de direction ? La question de prime abord paraît infime. Un fait toutefois mérite d'être relevé. La plupart des transformations, nombreuses et rapides, dont notre monde est le théâtre, sont liées, de près ou de loin, à l'apparition de nouveaux dispositifs ou à des logiques industrielles. Rien de tel dans le cas présent, qu'un enfant regarde vers l'avant ou vers l'arrière dans sa poussette et, tant du point de vue technique qu'économique, rigoureusement équivalent. Alors, pourquoi ? Comme un détective privé qui, embauché pour une banale histoire d'adultère, se trouve mêlé à une affaire d'État, voilà qu'à chercher une réponse, on se met à faire de surprenantes découvertes. Je viens de vous lire le tout début d'un ouvrage d'Olivier Rey, paru en 2006, sous le titre « Une folle solitude, le fantasme de l'homme autoconstruit ». C'est en effet à partir de cette banale constatation de l'inversion du sens des poussettes de bébé que l'auteur va se livrer à une véritable enquête au cœur du monde contemporain. Alors, Olivier Rey, j'en ai déjà parlé sur Radio Barthas à l'occasion de son dernier ouvrage paru en 2014 sous le titre « Une question de taille ». Et je vous avais alors chaleureusement invité à lire cet ouvrage. Vous retrouverez sans peine cette chronique sur le site de Radio Barthas dans l'émission marque-page du mois de décembre, si vous voulez l'écouter ou la réécouter. Et donc, c'est cette lecture d'une question de taille qui m'a donné envie de me replonger dans la lecture de cet ouvrage plus ancien, Une folle solitude. Car avec Olivier Rey, on n'a jamais fini de découvrir de nouvelles entrées et de nouvelles réflexions et de se faire bousculer dans nos certitudes. Alors, pour revenir à cette entrée en matière de l'auteur, donc à savoir le retournement de situation, donc la signification de l'orientation des bébés dans les poussettes, il nous explique que c'est une des multiples conséquences, qui peut paraître anodine certes, mais qui ne l'est pas tant que ça, des deux piliers sur lesquels reposent nos références depuis plus de deux siècles, disons depuis le milieu du XVIIIe siècle, et qui sont, d'une part, la démocratie et d'autre part, la science. l'une et l'autre privilégiant un sujet libéré du poids du passé, des entraves traditionnelles, un sujet regardant résolument vers l'avant, bref, un sujet autoconstruit. D'où le sous-titre de l'ouvrage, Le fantasme de l'homme autoconstruit. Alors, d'abord sur le plan démocratique, au nom du principe de la liberté individuelle, consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la domination de certains groupes humains sur d'autres est combattue. Donc après les femmes, les peuples colonisés, les minorités religieuses, ethniques ou sexuelles, on peut légitimement se demander si les enfants ne constituent pas eux aussi une fraction opprimée de la société à libérer de la tutelle des adultes. Si oui, alors il convient de les inviter à appréhender le monde à leur gré, sans intermédiaire. Dès lors, il apparaît logique de placer le jeune enfant dans sa poussette face au monde au lieu de le tourner vers l'arrière, vers la génération précédente. Sur le plan scientifique, la critique des méthodes traditionnelles de traiter les enfants en bas âge remonte également pour l'essentiel au XVIIIe siècle. Époque, par exemple, où des philosophes se sont élevés avec vigueur contre la coutume d'emmailloter les nourrissons. Et aujourd'hui, on estime en effet, études scientifiques à l'appui, que plus l'enfant est en prise directe avec le monde, plus ses facultés sont stimulées. Le changement d'orientation des poussettes est donc recommandé scientifiquement. On voit bien qu'aussi bien les arguments démocratiques que les arguments scientifiques semblent recevables et peu sujets à controverse. Qui, en effet, pourrait remettre en question ou simplement discuter ces avancées fondamentales de notre société que sont la démocratie et la science. Eh bien, c'est pourtant ce que va faire Olivier Rey dans cet ouvrage. Il essaie de nous faire découvrir ce que le retournement des poussettes révèle de l'impensé qui gouverne notre monde. Alors, il nous prévient quand même que cela ne peut pas se faire en quelques mots. Et je vais vous refaire un tout petit bout de lecture, c'est la fin de l'introduction. Voilà ce qu'il nous dit pour expliquer après les détours de son ouvrage. Il nous dit « Le trajet proposé n'est pas une ligne droite, il comporte des détours. S'en agaceront ceux qui préfèrent l'autoroute. Dans un voyage, seuls les intéressent les points de départ et d'arrivée. Mais, encore une fois, points de départ et d'arrivée ne valent pas grand-chose dans le domaine de la pensée, sans le chemin qui les relie. Le chemin a ses fantaisies, ses aléas. S'en agaceront ceux qui veulent aller droit au but. C'est un des grands soucis de notre temps, aller droit au but. Mais, à force, le but disparaît dans le souci d'y aller vite et droit. » Et en effet, Olivier Rey va nous amener un petit peu sur des chemins de traverse, à travers cet ouvrage, des chemins de traverse à travers les mythologies grecques, romaines, judéo-chrétiennes, à travers également la littérature, le cinéma, la science-fiction. Il va nous donner beaucoup d'exemples, ce qui est très très intéressant. Alors vous l'aurez compris, hein, il est difficile de résumer cet ouvrage en quelques mots, même Olivier Rey nous le dit. Alors j'ai quand même essayé d'en tirer quelques thèmes principaux que je vais un petit peu développer. Il nous dit que ce changement du siège à roulette de l'enfant, donc d'une part, d'un côté il faisait face à ses parents ou à d'autres adultes, donc avant, et puis maintenant il leur tourne le dos. Donc Olivier Rey nous dit que ça touche d'évidence au rapport de génération. Et je cite « Se précéder soi-même ». Pour être l'artisan de sa propre apparition, c'est dénier à la génération précédente sa précédence. C'est être d'emblée sur le même plan qu'elle. Se précéder soi-même, cela signifie se passer d'un tiers, éliminer le tiers, et donc renouer avec la complétude incestueuse. Et l'auteur va d'ailleurs développer ce thème de l'interdit de l'inceste dans les différentes civilisations pour nous parler de ce lien entre générations. Alors toujours sur ce thème générationnel, il est également allé chercher dans la science-fiction les thèmes donc chers à la science-fiction autour du retour vers le passé ou de la modification du passé. Et voici ce qu'il nous en dit. L'impossibilité de modifier le passé... C'est d'abord l'impossibilité de changer son propre passé, d'annuler ou de retoucher ses propres actes, de se produire soi-même. c'est donc aussi assumer ses responsabilités. Rêver de modifier le passé, c'est vouloir se précéder soi-même, être au principe de sa propre apparition. Donc on voit que Olivier Rey conteste un petit peu cette question donc de l'éloignement des générations, du fait qu'il aille toujours regarder de l'avant, et il se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu aussi regarder derrière ? Il nous parle également de la démocratie. Il met en avant que le danger qui la guette, c'est l'abandon de toute mesure par le fait que le peuple souverain ne trouve devant lui aucun obstacle, donc aucune limite. C'est d'ailleurs pour cela que dans l'instauration des régimes démocratiques, on a tant insisté sur la nécessité de pouvoirs multiples et séparés, que des instances indépendantes sont chargées de veiller à la constitutionnalité des lois, que la référence aux droits de l'homme s'est trouvée durant le dernier demi-siècle sacralisée. C'est pour recréer une extériorité, donc un tiers sur lequel la démocratie, sans lequel pardon, la démocratie ne protège de rien. On voit revenir ici le thème du tiers, et notamment du tiers protecteur, qui permet de ne pas se retrouver seul face à soi-même. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage, « Une folle solitude ». Et à travers cette sacralisation donc, des droits de l'homme, on voit aussi apparaître le thème donc, du sacré. N'a-t-on pas besoin de sacraliser certaines choses de façon à pouvoir s'y raccrocher ? Et encore une fois, ne pas se retrouver seul face à soi-même. Alors cela conduit Olivier Rey à nous parler de religion. Il nous dit « Le mode de pensée qui sous-tend l'idéologie de la croissance et du salut par le progrès technique s'est constitué dans l'histoire de la pensée européenne en opposition à la pensée religieuse, entraînant un conflit d'autorité qui a délogé Dieu de sa place pour y installer la science. Le salut fut alors rapatrié de l'au-delà à l'ici-bas. Et la politique fut chargée de résoudre tous les problèmes humains et de façonner le monde idéal. On peut faire référence ici à la montée des idéologies politiques à partir du XVIIIe siècle, parallèlement à la contestation des religions, où on voit qu'on a quand même eu besoin de se raccrocher à quelque chose. Mais l'échec de la politique à créer ce monde idéal, on va dire l'échec des idéologies, nous conduit aujourd'hui à deux solutions, soit attendre le salut de la technique et de la consommation, soit à nous tourner vers d'autres formes de salut que l'on voit très nettement aujourd'hui apparaître dans toutes les formes de fondamentalisme. Un retour du religieux, donc, qui ne serait que la nécessité pour les humains de pouvoir s'ancrer à quelque chose. Difficile de s'ancrer à quelque chose dans un monde qui entend rompre à la fois avec les religions et avec son passé, qu'il s'agisse du passé collectif ou des passés individuels. Donc ce sont des pistes de réflexion intéressantes que nous présente Olivier Rey là-dedans. Et du coup, il va nous parler bien sûr d'éducation. Et il va nous poser des questions. Comment éduquer les enfants dans une société démocratique ? Comment instituer le sujet ? Comment transmettre la loi ? Alors selon lui, l'autonomie de l'humanité est une conquête progressive. Et pour y participer, chaque individu doit en passer par une phase où il reçoit de ceux qui le précèdent le capital accumulé. Il ne s'agit pas d'attenter à sa liberté, mais au contraire de la permettre. Or, notre civilisation fait apparaître une tension entre ce qu'impose l'éducation pour remplir ses missions, à savoir une phase de dépendance, d'assignation au rôle de celui qui apprend, d'hétéronomie, et l'état auquel elle doit conduire, dans une société démocratique, celui d'adulte autonome, sans place assignée, libre de son destin. Ce paradoxe est insoluble. Ironiquement, il nous dit quand même que la vie le résout tous les jours, heureusement. Olivier Rey attire notre attention sur le danger de prendre l'enfant pour ce qu'il n'est pas, à savoir, dès l'origine, autonome, créateur de lui-même. Le danger, c'est de lui rendre l'autonomie réelle plus difficile, voire impossible. Traiter un enfant comme un individu non autonome n'est pas un déni, mais une reconnaissance d'humanité. Là aussi, une belle piste de réflexion. Enfin, toujours sur ce thème de l'éducation, il souligne que les différentes réformes du modèle éducatif, qu'il soit parental, familial ou scolaire, sont concomitantes avec le changement d'orientation des enfants dans les poussettes et vont toutes dans le sens suivant. L'adulte ne doit en aucun cas se poser en modèle, interposer sa personne entre l'enfant et le monde. Mais Olivier Rey a des doutes là-dessus. Il nous dit que l'abandon de l'éducation traditionnelle, la fin des humanités, l'enfant constructeur de ses savoirs, n'était-ce pas exactement ce qui convenait pour pérenniser la société de consommation, la poussée consumériste? Et il nous cite Hannah Arendt qui disait: c'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice, à méditer et à discuter. Donc on le voit, à base de très nombreux exemples, Olivier Rey nous permet de mesurer à quel point l'utopie de l'autofondation a pénétré notre monde. Et voilà comment il termine son ouvrage. S'il a été question de l'orientation donnée aux enfants dans les poussettes depuis quelques décennies, c'est en tant qu'élément solidaire d'un contexte général, en tant que symptôme de la forme de pensée qui domine et emporte l'époque. Ce ne sont pas les poussettes qui font ou changent le monde. Elles ne sont qu'un signe et un test. Combien de critiques acerbes du monde contemporain qui fustigent des mots tout en restant pénétré de l'esprit qui les produit, qui déplore des effets en continuant de chérir leur cause. N'est-ce pas le cas pour ceux qui, au spectacle des enfants promenés par leurs parents sur les trottoirs de nos villes, refusent de convenir que les poussettes sont construites à l'envers? Mais si, elles sont à l'envers. Il n'était pas si mal que les enfants gardent un moment dans leur champ de vision, la génération qui les a précédés. On voit ici un petit peu toute l'ironie d'Olivier Rey. Alors bon, on voit que cet ouvrage, comme toujours d'ailleurs avec cet auteur, a de multiples entrées. Elles sont toutes captivantes. C'est un ouvrage qu'on peut lire plusieurs fois en y trouvant toujours de nouvelles pistes de réflexion qui bousculent vraiment nos certitudes. Pourtant, ce livre reste vraiment, je le dis, abordable par tous, grâce à une écriture limpide et vivante. Vous en avez eu quelques exemples. Alors, avant de terminer, et pour le plaisir, je ne résiste pas au plaisir, deux fois le plaisir, donc beaucoup de plaisir dans cet ouvrage, de vous lire l'épilogue de cet ouvrage, dont je vous rappelle le titre, « Une folle solitude, le fantasme de l'homme autoconstruit », paru aux éditions du Seuil, en 2006. Je vous souhaite une excellente lecture et voici donc cet épilogue. Je suppose que ma première expérience de l'infini a été précoce. Ce que Freud appelle la Hilflosigkeit, la détresse du petit enfant jeté dans l'existence, incapable de se porter assistance à lui-même. Corrélativement, la demande infinie adressée à ceux qui étaient à même de me secourir et de me consoler, et en retour, un attachement infini. De cela, je ne peux guère parler. Les premiers temps de la vie sont opaques. Plus tard, viennent les rencontres conscientes avec l'infini. L'une d'elles a lieu chez le coiffeur. Je suis assis face au miroir, sur une planche posée entre les deux accoudoirs du fauteuil, afin que ma tête dépasse du dossier. Sur le mur, derrière, un autre miroir. Entre les deux, un défaut minime de parallélisme. Quand le coiffeur s'écarte, apparaît dans la glace une suite ininterrompue de reflets de moi-même, se chevauchant et rapetissant jusqu'à l'infini. Avant cela, il y a une autre expérience. De la finitude et de l'infini mêlés, allant de pair, indissolublement liés. Je suis dans une poussette. C'est ma grand-mère qui me promène. Ma grand-mère est gentille, mais, contrairement à ma mère, elle a des rides, elle est vieille. Son visage, bien que doux, n'est pas agréable à contempler longtemps. Je regarde surtout les côtés, la rue, les maisons, les passants, la haie des jardinets. Est-ce un mot qu'elle a dit ? Je ne sais pas. Tout à coup, j'ai compris une chose. Plutôt, je l'ai saisie, ressentie. Ma grand-mère n'a pas toujours été vieille. Dans un lointain passé, elle aussi a été jeune. En ce temps-là, ma mère était une petite fille. Dans un passé plus lointain encore, ma grand-mère a elle aussi été une petite fille, qui avait une mère et une grand-mère. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas exagérer. Et pourtant, je crois avoir deviné, à cet instant, dans le visage ridé qui me faisait face, ce fait effrayant. Moi aussi, un jour, je deviendrai vieux. Il y avait autre chose. Derrière ces traits fripés, flétris, j'entrevoyais d'autres visages, jeunes, vieux, tous ceux qui l'avaient précédé. Je devinais la succession innombrable des générations, chacune frayant la voie à sa progéniture, l'élevant, lui transmettant son savoir, fragmentaire et précieux, souvent leur seul bien, reçu et donné comme on fait du pain. Il me semble avoir discerné, dans la trace ténue laissée par les roues de la poussette dans la poussière du trottoir, la suite sans fin des pères et des mères remontant à travers les âges, jusqu'à ce qu'à force d'éloignement, leurs contours s'estompent et disparaissent, mangés par le paysage, comme la silhouette d'un être qu'on aime et qui s'en va, qu'on suit des yeux et qui finit par s'évanouir dans la distance, là-bas, entre les collines, quelque part entre le ciel et la terre.